Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité, AAU.
Et à Damien pour une réaction à chaud par rapport à la discussion, par rapport à aux quatre interventions de la table ronde. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez intervenir, on n'avait rien prévu. C'est Laurent, peut-être.
Ok. Bon, écoutez, ouais, merci beaucoup de me donner la parole. Et puis, comme le disaient Rainer et Jean-Paul au début, hein, on intervient à chaud. Et moi, je dois le dire, même si Rainer nous a transmis hier soir les textes, j'ai pas pris le temps de vous lire, donc je vous ai entendu, hein, écouter avec attention, intérêt. Et voilà, c'est plutôt 5 ou 6 points que j'ai retenus, que je trouve peut-être intéressant à continuer de discuter entre nous et au-delà du laboratoire AAU. Et je vous le dis aussi, c'est quelques mots qui viennent plutôt de quelqu'un qui mobiliserait plus volontiers les notions d'urbanité et de fabrique que d'ambiance milieu-paysage. Alors, premier point, évidemment c'est partiel, mais je me suis dit, essayons d'organiser un petit peu les choses. Premier point, je vais vous dire que j'ai un peu un sentiment de redite plutôt que de ligne d'horizon. Et ça n'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas, je me disais, tiens, c'est... On est dans un travail bien intéressant d'archéologie des débats. On participe à une histoire des idées, et peut-être plus précisément, une certaine histoire de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, avec il m'a semblé, et même si l'occasion n'était pas de l'approfondir, un plan historiographique des années 1960-1990. Des questions, des auteurs, des instrumentations, des laboratoires, des écoles. C'est ce que renvoyait Frédéric tout à l'heure avec la notion d'institutionnalisation, en fait, hein, voilà, des écoles de paysage, des laboratoires, etc. Et donc, ça montre aussi un temps long, par-delà les différentes modes, par-delà les différents turns, tournants qu'on a pu connaître ou traverser depuis plus de 50 ans, du coup, hein, si on vous écoute bien. Donc, je ne sais pas, moi, je me disais que ce premier niveau de réflexion, c'est peut-être une interpellation, mais c'était aussi le sens d'une ou deux remarques dans la salle, si j'ai bien compris. Et puis aussi peut-être d'assumer le fait que un travail de contribution à cette histoire de la recherche à partir de ces notions aurait de l'intérêt. Et ça supposerait peut-être de discuter avec d'autres manières d'écrire cette histoire, François Dos, Christian Topalov, etc. Voilà, ça, c'est un premier point. L'autre, c'est que je pense comme tout le monde, on s'est dit, bon, mais finalement... pourquoi est-ce qu'il faut théoriser? À quoi est-ce que ça sert? Et donc, j'ai retenu cette notion de boussole théorique qui était évoquée. Alors, c'est vrai qu'il s'agit de cheminer, et plutôt de cheminer dans un ensemble d'idées, des volontés de conceptualiser. Et moi, il me semblait, et ça rejoindrait, je pense, la remarque de Yann récente, qu'à chaque fois, les notions, elles sont tout de même engrammées dans des programmes de recherche, finalement, qui peuvent être individuels, dans des pensées spécifiques. Moi, j'y repense en glanant de temps en temps des choses dans le dictionnaire international Bourdieu, ou bien en relisant des textes du parler frais d'Erwin Goffman, ou alors, pour nous rapprocher encore de ce qui a été discuté ce matin, le fait que le milieu dans la théorie acteur-objet-environnement d'un Jacques Lévy n'est pas le milieu chez Berg, quoi. Et donc, voilà, ça c'est un point où je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire que penser pour nous, sachant qu'il me semble que beaucoup de travaux, en particulier du Cresson, mais pas seulement, ont pu relever de penser par cas. Alors, je me disais aussi à vous écouter qu'on se sert de notions pour mieux penser, pour dépasser des oppositions insatisfaisantes, et pour le coup, j'ai l'impression que les trois notions, concepts qu'on a pu traverser ont permis à des moments de clairement dépasser des oppositions, des dualismes subjectifs-objectifs, nature-culture, individuel-collectif, peut-être moins l'opposition humain-non-humain, qui a plutôt été pris en charge par d'autres théories finalement, plutôt que par celle de l'ambiance. Et donc, c'est vrai que j'ai été attentif à vos discussions qui montrent que à la fois on doit penser pour rassembler, c'est vraiment l'idée de un monde pluriel mais commun, mais aussi parfois on pense parfois pour séparer ou pour clarifier. Et donc je me dis, est-ce qu'on cherche des constellations ou est-ce qu'on cherche des démarcations? Alors clairement, on doit aller vers des constellations. Et du coup, du côté de l'interdisciplinarité, moi j'ai quand même plusieurs fois en vous écoutant songé que probablement ambiance, milieu, paysage nous incite à être beaucoup plus proches d'autres registres de travaux comme ceux de la littérature, nous rapprocher d'écriture de l'expression et donc d'être encore peut-être davantage post-disciplinaire au moment de l'Anthropocène. En tout cas, d'être plutôt heureux que les idées circulent, pour reprendre l'expression que Frédéric évoquait tout à l'heure. Et dans le même mouvement, on doit aussi clarifier. Et je me disais, dans quel moment est-ce qu'on est toujours appelé à plutôt définir, quoi? Pourquoi, dans quelle situation de discussion, on se dit, bon, écoutez, on va vous quand même définir de quoi il s'agit. Et probablement qu'on doit le plus le faire dans le rapport aux politiques publiques. Peut-être aussi parfois, moi j'aime assez le faire, mais je pense que ça s'est peu apparu ce matin, en identifiant des ennemis théoriques. En tout cas, les clarifications, elles sont toujours provisoires, mais elles nous aident sur le plan heuristique. Et de ce point de vue-là, ça terminera ce long deuxième point. Je me disais qu'au sein des ambianceurs, je mets des guillemets évidemment, hein, de ceux qui sont des membres de AAU, il y a aussi des oppositions vives que l'on pourrait souligner davantage au sein du laboratoire. Des modélisateurs, des narrateurs, est-ce qu'on est satisfait de considérer qu'on serait tous sous le chapeau de l'ambiance? Troisième point, ça a été souligné par Théa tout à l'heure. En effet, d'emblée, je me disais, bah oui, les intervenants sont tous des architectes. Alors, avec qui les architectes discutent-ils? Des philosophes un peu, des géographes un peu, des paysagistes ici, assurément. Et c'est intéressant de voir où sont les appuis. À la fois, quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a des inspirateurs qui sont assez proches. Une certaine veine, et finalement on a vu évidemment ce matin que Lassus Berck était peut-être très important de ce point de vue-là. Et l'autre, alors ça n'est pas une inspiration, mais c'est plutôt une quête, c'est cette histoire de l'opérationnalisation, l'enjeu d'être opératoire, que cela permette de faire projet, ça ne veut pas dire forcément la même chose, hein, opératoire et faire projet. J'avoue pour ma part être un peu embêté en fait, enfin c'était un peu un malaise pour moi qui serait celui que finalement renverrait à une opposition entre le opératoire et le hors-sol. Je ne sais pas, pour moi des notions aujourd'hui dont on discute beaucoup comme transition, bifurcation, ça traverse ces oppositions. Et donc sûrement qu'on peut voir de l'ambiance soi-disant opératoire, on peut modéliser de l'ambiance sous un arbre isolé, voilà, on peut faire ça. On peut voir de l'ambiance soi-disant hors sol, et ça, c'est des réflexions méta sans terrain. Bon, voilà, je ne sais pas s'il faut que cette quête d'opérationnalisation soit quelque chose qui singulariserait l'ambiance. Enfin, en tout cas, c'est une question que je nous renvoie. Je n'insiste pas, quatrième point, je vais bientôt avoir fini, hein, je vous rassure, c'est pas long. J'ai bien compris que la consigne avait été de rester sur le francophone, mais c'est vrai que. Sûrement que bon, cette seule perspective, on voit bien qu'elle est insatisfaisante, hein, et ce n'est pas un reproche fait aux intervenants. Mais je me disais par exemple, sûrement que si on prend au sérieux la notion de environmental sensibility, ça nous permettrait peut-être d'avoir d'autres types de discussions. Ou alors la notion d'agencement, par exemple. Je me dis, tiens, est-ce que l'agencement permet par rapport à l'ambiance, de dire des choses peut-être aussi plus intéressantes sur le volet des normes de la. Je n'aborde pas du tout l'ambiance. Et puis, alors, deux autres points, si vous me le permettez. Hein. Je vois personne s'agiter, excusez-moi, je ne vois pas bien évidemment la salle. Un autre point, c'est que j'ai relu hier rapidement, non pas les textes transmis par Rainer, mais un texte de l'un qui est autour de la table, qui a 20 ans en fait, et qui était, à mon avis, qui est très intéressant à relire aujourd'hui. Ce texte s'appelle Une approche pragmatique des ambiances urbaines, et il invitait à voir ce que donne. Une lecture exogène, une lecture transverse et une lecture endogène de l'ambiance. Et je pense que c'est assez utile, en fait, 20 ans plus tard, de regarder la lecture exogène, c'est d'insister sur le fait que l'ambiance a permis le retour vers le concret, les lieux, les gestes à l'œuvre, l'ordinaire en commun. Et on n'en a pas tellement parlé ce matin, finalement. Ça, j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une sorte de reflux de la sociologie urbaine dans notre laboratoire. En tout cas, j'ai l'impression que c'était peu présent. La lecture transverse, c'était d'inciter à considérer le chiasme des ambiances. Dixit, celui qui se reconnaîtra certainement, hein, et je le cite, qui, d'un côté, en fait, les théories du paysage rendent compte des qualités sensibles du monde urbain, mais restent la plupart du temps inopérantes pour penser son efficace pratique. À l'inverse, les théories de l'action mettent l'accent sur le caractère pratique de la perception, mais demeurent insensibles à son versant pathique. Fin de citation. Et puis la dernière lecture que proposait celui qui s'est reconnu sûrement, c'est la lecture endogène, et donc cette question de la sensibilisation de l'habité qui se déploie de trois manières. Voilà, alors ça, je nous invite sûrement à reprendre en fait cette discussion qui était suggérée il y a 20 ans déjà. Et puis, deux autres points que moi j'ai retenus et qui peuvent être des prolongements, c'est que je crois qu'il y avait une des questions posées par l'équipe qui était de se poser la question de est-ce qu'il y a des champs aveugles et ben moi, j'ai pensé peut-être à cette question des théories de l'action. Et j'ai pensé aussi à tous ces travaux, alors notamment inspirés par la géographie dite radicale anglophone, quoi, des savoirs situés. Comment on resitue les savoirs. Bon, je sais pas, j'ai pensé à ces deux points en me disant, tiens, on les a pas traversés ce matin, on pouvait évidemment pas tout traverser. Et puis le dernier point, c'est plutôt de souligner ce qui a été une suggestion de Jean-Paul, il me semble, sur la question des sous-catégories pour redescendre d'un cran. Et c'est vrai que je me suis demandé si ce serait pas intéressant pour le laboratoire d'essayer de faire ce travail et d'être plus proche de alors, la théorie des savoirs situés, la théorie de la rationalité de la limité, que sais-je, le dictionnaire des nouveaux mots de l'Anthropocène qui était mentionné, finalement, c'est peut-être assez intéressant d'aller vers des théories spécifiques au sein du grand ensemble des ambiances dont on voit bien à quel point il a pu prospérer depuis 30 ou 40 ans. Voilà, écoutez, évidemment, c'est à chaud, c'est partiel, et j'espère que ça renvoie un peu des questions à tout le monde. Et si je ne me trompe pas, il faut que je tende maintenant le micro à Damien. C'est bien ça.
Voilà, c'est exactement ta tâche. Un grand merci, Laurent, pour cet exercice formidablement accompli et qui nous a donné beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup.
Donc, c'est à mon tour, si je ne me trompe pas. Merci pour cette proposition du coup de réaction à chaud. Comme Laurent, même chose, j'ai découvert non pas les textes, mais les interventions. Qui sont arrivés un petit peu tardivement. Voilà, c'est un ensemble de réflexions, pas tant une synthèse finalement que quelques propositions à partir de ce qui a été dit. Et puis aussi en indiquant que je parle pas forcément de très près de toutes ces notions-là. Quatre points d'étonnement que je relève très rapide par rapport à cette table ronde d'aujourd'hui. Le premier, il renvoie au fait que c'est le lien très fort que font les interventions avec le champ de la conception, ce qui est très, très certainement à voir avec effectivement la qualité d'architecte des quatre intervenants, comme ça a pu être relevé déjà, et ce qui ne va pas forcément de soi quand on voit a priori ces notions de l'extérieur. En tout cas, je ne l'avais pas envisagé comme ça. La deuxième point qui me paraît important aussi et qui a pas été qui est lié avec le premier, c'est une place importante donnée à la question de la méthode, de la méthodologie, qui fait que effectivement ces différentes interrogations, ces différentes notions plutôt, n'ont pas été abordées aujourd'hui comme des questionnements de type ontologique. Mais plutôt ont été abordés en termes de ce qui a été fait avec et de ce qu'on peut faire avec aujourd'hui, donc à partir de ces trois notions-là. Toujours en lien d'ailleurs avec ce deuxième point, sur la question plutôt de la méthodologie ou des méthodes, et j'y reviendrai après parce qu'il me semble qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent à partir de là, il y a celui effectivement de la question de l'action, ou même de l'action publique, comme ça a été effectivement évoqué dans les interventions de Théa ou celle de Frédéric, mais aussi à travers notamment, je pense, la remarque de Rachel sur la question de la durabilité de ces notions, de leur capacité aujourd'hui à pouvoir prendre en main ou prendre en charge les défis contemporains auxquels on peut faire face au plan sociétal. Dernier point d'étonnement, mais pas mais au sens où voilà, choses qui m'ont saisi, c'est le fait que ces notions-là, aujourd'hui, c'est ce qui a été dit aussi par Laurent dans sa première remarque finalement, c'est d'entendre que sur les trois notions qui ont été proposées à la discussion, de mon point de vue, deux ont probablement été plus discutées, celle de paysage et de milieu, très clairement. Et elles ont été aussi assez fortement rabattues sur deux auteurs, Lassus et Berck. Là où on aurait pu envisager effectivement d'autres perspectives par rapport à elles. Donc c'est de mon point de vue vraiment intéressant à questionner, à voir aussi des articulations avec d'autres pensées, et c'est peut-être aussi un effet de la consigne de se limiter à un contexte francophone, et c'est aussi bien sûr dû aux intervenants présents. J'imagine qu'il aurait pu être question dans une forme de configuration de la généalogie, des ambiances architecturales et urbaines, de la création de DEA ambiance, ou que sais-je. En termes d'enjeux, en tout cas, au-delà de ces points d'étonnement, Je relève trois directions qui me paraissent, en tout cas, qui moi, me stimulent après vous avoir entendu toutes et tous, et qui sont vraiment très clairement des enjeux qui sont, j'ai mis dans mes notes, enjeu pragmatique 1, enjeu pragmatique 2, enjeu pragmatique 3. Donc, de mon point de vue, on est vraiment dans quelque chose d'assez opératoire dans la discussion qui vous a animé ce matin. Et premier enjeu de type pragmatique, il me semble qu'il est de l'ordre de la capacité d'échange, de la capacité de communication avec d'autres disciplines, avec le public, avec les décideurs, etc., etc. Comme je le disais à l'instant, j'ai eu l'impression de plus avoir entendu parler de paysage et de milieu que d'ambiance. Et quand il a été question d'ambiance, il me semble que la plupart du temps, il en a été question pour parler de ses rapports avec les deux autres notions. Or, les notions de milieu, les notions de paysage sont des notions clés d'autres champs, au premier chef desquels je verrais la géographie et l'écologie, probablement, là où la notion d'ambiance n'est pas une évidence dans ces champs-là. Je trouve que ça donne du coup d'autant plus d'importance d'essayer de comprendre les modes d'appréhension de ces notions qui existent dans ces autres disciplines pour pouvoir continuer à échanger, à pouvoir être compris et donc du coup à rendre opératoires les manipulations qu'on en fait. Pour le dire différemment, je me rappelle d'un échange que j'ai eu il y a quelques années avec Anne Volvet, qui est géographe et qui travaille particulièrement sur la question du corps, et qui défendait une posture, une appréhension radicalement visuelle et strictement visuelle de la notion de paysage et qui ne comprenait pas pour quelles raisons on pourrait parler de paysage sensible ou qui voyait une forme d'abus. En fait, elle le comprenait très bien, mais elle dénonçait une forme d'abus de langage à travers cette proposition-là. Du coup, on pourrait effectivement réfléchir à partir de là et se demander comment ça se fait, en particulier, qu'une notion comme la notion d'ambiance peine à compléter les paradigmes d'une discipline comme la géographie, comme d'autres notions, comme celle de milieu, d'environnement qui ont été discutées aujourd'hui, de paysage bien sûr, région, espace, etc. Pourquoi Alors, au-delà du pourquoi, qui peut être un peu enfermant, mais en tout cas, comment plutôt la notion d'ambiance pourrait venir aussi rejoindre ces notions-là, pour quel type d'effet et ou autrement, pourquoi c'est quelque chose qui ne semble pas indispensable dans ces autres disciplines aujourd'hui. Et ça, je pense que, vu que c'est aujourd'hui un séminaire à AU, c'est une question qui, de mon point de vue, me paraît, à titre personnel depuis longtemps, mais aussi, je pense, pour l'équipe, une question d'importance qui consiste à se demander comment discuter avec les autres et comment se fait-il qu'une notion si clé et si chère à nos yeux et à nos cœurs n'est pas forcément une évidence au-delà de nos murs. Deuxième ligne d'enjeu, essayer de se rappeler ce que chacune de ces notions qui ont été discutées aujourd'hui permet de faire. Théa disait tout à l'heure que milieu, paysage, ambiance sont toutes des porte-voix du sensible, mais qu'elles ne le font pas de la même manière. Et il me semble en particulier qu'il y a un enjeu à essayer de comprendre les projections que les interlocuteurs qu'on a peuvent s'en faire. Il ne faut pas sous-estimer le poids des évocations qui est associé à chacune de ces notions. Et en particulier dans le monde de l'action, il me semble que le paysage comme le milieu semble plutôt renvoyer des environnements de type naturel ou aménagé, bien sûr, mais qui renvoient des formes de, quand même de rapport à la nature. Là où l'ambiance peut potentiellement résonner peut-être plus avec des mondes artificiels, des mondes construits, des mondes conçus, etc. Et donc là aussi, je pense qu'il est assez utile de se rappeler le poids de ces notions dans des formes à nouveau de projection qu'on peut mettre dedans. Troisième ligne d'enjeu qui consisterait à essayer ce qui a été fait d'ailleurs aujourd'hui. Donc, s'il a été question de moins d'essayer de définir et d'enfermer ces notions plutôt que d'essayer de développer des postures qu'elles rendent possibles, des modes d'appréhension qu'elles rendent possibles, il me semble qu'on a tout intérêt à essayer de se demander qu'est-ce qu'une approche par le paysage, qu'est-ce qu'une approche par le milieu pourrait être susceptible de faire, au même titre qu'une approche par les ambiances a été largement développée et a été largement rendue possible, notamment par des travaux historiques du Cresson. Donc, essayer de ne pas rabattre effectivement ces notions sur des objets, mais plutôt aussi de voir ce qu'elles ouvrent à partir du moment où on les considère en tant qu'approche. Et je trouvais utile vraiment ce qui a été indiqué tout à l'heure quand Frédéric parlait de ces croquis d'ambiance, Yann Nussom qui indiquait aussi les méthodes d'imprégnation enseignées par Lassu, l'approche de Pascal, effectivement, qui montre comment chacune de ces notions ouvre à des modes de relation au monde, etc. Donc, une forme de piste par rapport à ça, ce serait d'essayer d'enquêter sur les modes de complémentarité ou sur les différences entre ces notions, mais à nouveau à considérer plutôt comme mode d'approche au monde. Et à ce titre, il me semblait, mais là aussi c'est une ouverture, qu'il y aurait probablement à peut-être une forme de, je ne sais pas si c'est une hypothèse, mais d'intérêt à essayer d'ouvrir la notion de scape, le suffixe de ce fameux suffixe scape qui vient derrière landscape traduit en paysage en français, mais qui est en fait le suffixe utile à déployer tout un tas de formes d'attention spécifiques au monde qu'on trouve dans la langue anglaise, donc soundscape, taskscape, développé par Ingold, où on peut trouver des versions beaucoup moins sensibles, comme le technoscape, par exemple, etc., qui, de mon point de vue, ouvre peut-être une forme de réflexion. Si landscape est la définition, ou en tout cas l'homologue de la notion de paysage en langue française, de quel type de scape, quel type de scape serait le milieu ou l'ambiance, si ça fait sens de poser une telle question. J'ai absolument pas de réponse à tout ça, et je vais m'arrêter sur ces quelques mots. En tout cas, merci encore, en tout cas pour cette opinée et ces discussions stimulantes.
Donc un très très grand merci à vous deux qu'on a malheureusement eu pas en coprésence, parce que je crois que ça aurait été encore plus chouette de discuter avec vous autour du déjeuner. Je pense qu'il y a encore des réactions par rapport à ce que vous avez encore apporté à cette discussion déjà très riche. Donc sinon, je tiens encore à remercier à tout le monde, donc tous les intervenants, et à vous deux d'avoir participé à cette première table ronde qui pour moi, même, voilà. Encore un grand merci à tous et à toutes, et à tout de suite pour la deuxième partie.